entre les Guzmán au Cachorro Oriental. J'ai rêvé totalement ce que
j'ai fait. Moi, j'ai essayé de compagnie au Cachorro. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, c'est l'heure de parole aux auditeurs. L'émission de Radio Capi 100% interactive, une émission qui vous donne la parole sur des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons passer ensemble près d'une heure quart d'échange sur le processus électoral en RDC. La Commission électorale indépendante a publié le lundi 9 août dernier le calendrier du processus électoral, un calendrier qui s'étend sur 3 ans en organisant les présidentielles, les législatives, les locales et les municipales. Selon la CEI, pour l'ensemble de ce processus, le budget d'exécution environne les 712 millions de dollars. Déjà, des voix s'élèvent réagissant face à ce calendrier, les associations, les regroupements politiques, les hommes politiques. Aujourd'hui, nous voulons avoir votre réaction, votre avis en tant qu'observateur, électeur ou potentiel candidat. Mais il faudrait dire qu'il y a des personnes qui soutiennent ce calendrier, tandis que d'autres le rejettent. Ils estiment qu'il est anticonstitutionnel. Et aujourd'hui, nous aurons comme invité l'abbé Apollinaire Malou Malou. Il est le président de la Commission électorale indépendante. Et sans oublier que cette émission est réalisée, produite par Nicole Ngaka, Titi Poutou et Sylvain Matou.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Aujourd'hui, Parole aux auditeurs se consacre au processus électoral, comme vous le savez peut-être déjà, parce que les journaux en parlent, tout le monde en parle. Il y a eu la publication de ce nouveau calendrier du processus électoral. Ce calendrier, en fait, prévoit plusieurs choses, notamment, il faudrait dire qu'à partir du 2 septembre, il va commencer le déploiement des kits et matériels de révision du fichier électoral, bien sûr dans des provinces où la révision n'a pas encore commencé, parce que vous savez déjà qu'au Bas-Congo, cela s'est clôturé hier, mais il y a certains centres qui vont continuer à ouvrir pour continuer à pouvoir accueillir les personnes qui voudraient posséder une carte d'électeur. Et puis, ce calendrier aussi prévoit que du 30 novembre 2010 au 27 février 2011, ce sera la collecte des données de la révision du fichier électoral dans les provinces du Bandundu, de l'Équateur, du Katanga, du Kasai occidental, Kasai oriental, du Maniema, de la province orientale, nord sud Kivu et de la ville, province de Kinshasa. Comme vous le savez, il y avait aussi déjà cette révision du fichier électoral. Mais aussi, il y aura du 6 avril 2011 au 5 mai 2011, ce sera la centralisation et la consolidation des données sur la révision du fichier électoral au Centre national de traitement. Du 13 mai au 12 juillet, sera la réception et traitement des candidatures pour les élections présidentielles et législatives nationales. Du 13 juillet au 11 septembre 2011, réception et traitement des candidatures pour les élections provinciales. Du 27 octobre au 25 novembre 2011, la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. Et le 27 novembre 2011, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle et des élections législatives nationales. Du 24 janvier au 24 février 2012, la campagne électorale des élections législatives provinciales. Du 10 février au 24 février 2012, ce sera la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, il y a tout un programme qui a été donné par la CEI. Ce calendrier est publié depuis le 9 août 2010. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, parole aux auditeurs, on voudrait avoir vous, votre avis, vous en tant qu'auditeur, observateur, ou peut-être vous êtes futur candidat électeur, on voudrait avoir votre avis, votre réaction face à la publication de ce calendrier. D'ailleurs, tout de suite là, le président de la Commission électorale indépendante vient de faire son entrée dans ce studio. Il s'agit de l'abbé Apollinaire Malou. Malou. Bonjour, monsieur Labbé.
Bonjour, madame.
Aujourd'hui, avec les auditeurs, parce que nous en avons déjà, nous avons eu des réactions, des gens qui voudraient donner leur avis concernant la publication de ce calendrier électoral. Vous l'avez publié, la CEI l'a publié depuis le 9 août. On voudrait savoir pourquoi maintenant, qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on puisse vous pousser ou maintenant publier ce calendrier électoral.
Le calendrier électoral, c'est un outil de planification, c'est un outil de gestion. Et une élection, ce n'est pas un événement, c'est un processus. C'est un processus avec plusieurs étapes. On a des opérations préélectorales, elles se préparent déjà dès maintenant. Et puis on aura des opérations électorales qui seront conduites par la CENI et des opérations post-électorales. C'est tout un cycle. Et pour ceux qui connaissent le domaine électoral, la partie de la planification se trouve justement à cette étape cruciale que nous venons d'amorcer. Alors pourquoi maintenant? Parce que nous avons fini une très grande concertation qui a duré des mois pour savoir quel sera l'engagement financier du gouvernement, quel sera l'engagement financier de la communauté internationale, à quoi consiste l'appui logistique de Monisco, et cela a permis de savoir avec beaucoup plus de précision quelle est la faisabilité des élections en République démocratique du Congo.
Donc déjà le calendrier est publié, est-ce que vous pensez que ce calendrier sera respecté?
Ce calendrier a beaucoup de chances d'être respecté parce que je vous dis que chaque ligne que vous trouvez sur le calendrier, ce calendrier est un engagement. Soit de la part de l'administration électorale, soit de la part du gouvernement, soit de la part des partenaires. Mais au-delà même des institutions et des partenaires, le calendrier électoral a l'avantage de mettre chaque institution devant ses responsabilités. Désormais, le Parlement sait que à la session parlementaire prochaine, il y a un budget à voter des élections de l'année prochaine. Et c'est déjà soumis à la commission budgétaire du gouvernement. Il sait qu'il y a encore des lois qui n'ont pas encore été...
Qui doivent accompagner.
Et à quel délai il doit le faire pour respecter le délai constitutionnel dont tout le monde parle. Et quand on en parle, on n'essaie pas de se poser la question pour atteindre ce délai constitutionnel, qu'est-ce qu'il faudrait?
Oui, nous allons revenir au budget peut-être un peu plus tard. On voudrait aussi savoir, parce qu'en annonçant ce calendrier, les personnes se posent des questions. Est-ce que c'est un nouveau cycle électoral ou bien qu'est-ce qui se passe? On poursuit l'ancien cycle électoral ou bien on commence un nouveau cycle électoral?
On commence un nouveau cycle électoral, mais si vous voulez commencer un nouveau cycle électoral, souffrez qu'on achève l'ancien.
Donc ça va
pas que le nouveau. Non, ça ne se fait pas ensemble. Le calendrier a déjà déterminé quand est-ce que l'ancien se termine et quand est-ce que le nouveau commence.
Donc
vous lisez même le calendrier détaillé, je vous dis, voilà.
Donc,
la responsabilité de la CEI s'arrête à tel moment et la responsabilité de la CEI commence.
On poursuit d'abord le cycle électoral qui avait commencé en 2005 presque, et on le clôture, et puis pourquoi qu'on n'avait pas encore, jusqu'à présent on a passé les locales et les municipales pour le cycle 2006, ou bien on laisse tomber, on fait autre chose.
Les élections urbaines, municipales, locales, par la force des choses, sont versées dans le nouveau cycle électoral. Je dis par la force des choses et contre la volonté de la commission électorale indépendante. Parce qu'elle s'est préparée à ces élections urbaines, municipales, locales dès 2007. Elle a mobilisé les moyens de la communauté internationale sur les élections locales en 2007. Elle a même interpellé toutes les institutions sur les lois essentielles des élections municipales et locales en 2016.
Donc,
chaque année, elle a mis dans son budget d'organisation des élections le budget des élections urbaines, municipales et locales. Chaque année, ce budget était enrayé. Et donc, on ne peut pas se lever un matin.
Vous êtes un organe technique, donc ça c'est vraiment une question, c'est une question politique. Oui. Nous allons quand même écouter nos auditeurs, parce que c'est eux, on voudrait avoir leur avis pour savoir ce qu'eux pensent en fait, leur réaction face à la publication de ce calendrier électoral.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Destinée. À Kananga, on voudrait savoir quelle est votre réaction face à la publication de ce calendrier.
Moi, je considère que c'est une sortie médiatique pour le patron de la CEI, sur la scène. Parce que nous, ici à Kananga, moi, je pense que c'est une sortie médiatique. Pourquoi? Parce que la CEI n'a qu'une mission de publier un calendrier électoral. Plutôt, nous voulons que la CEI soit mise en place. Il faut qu'il. Mais nous constatons quand même sa volonté. Par le fait qu'il veut que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Mmh. Mais sinon, la CEI n'a plus mission de pouvoir sortir un quelconque calendrier électoral. Moi, je crois que c'est violer la constitution, c'est l'énerver à la fois. Ce qui est faisable, c'est que nous attendons que la CEI se mette en place. Et pourquoi le calendrier s'en tient à la publication des études de faisabilité ne sont pas permises pour la CEI qu'elles soient faites. La CEI doit en faire l'étude de faisabilité, ce n'est pas la CEI.
Donc pour vous, si on vous comprend bien Destinée, il ne fallait pas que la CEI puisse publier le calendrier, qu'on devait attendre l'installation, en fait, disons, de la CEI. C'est ça votre préoccupation?
Oui, comme actionnaire, la mise en place de la CEI, parce que la CEI n'a plus sa vie. C'est une question qui nous a permis d'organiser les élections passées, mais cette fois-ci, non.
Merci. Merci beaucoup Destinée pour votre avis. Bonjour Raoul.
Oui, bonjour.
Vous êtes ici à Kinshasa, on vous écoute. Quelle est votre réaction?
Oui, madame, c'est pratiquement la même chose comme a dit notre ami de Kananga.
Mm-hmm.
Je voulais dire d'abord, mais c'est la raison de dire que le calendrier sera respecté, mais je voudrais ici lui rappeler que son propre calendrier de l'année de l'élection passée n'ont pas été respectés.
Mm-hmm.
Parce qu'aujourd'hui, de 1, de 2, on dit bien, l'article 73, j'ai la constitution de Kamo, je ne suis pas. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante.
Mm-hmm.
90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est clair. Là, nous disons que la Commission électorale de la Bémalmalou vient pas de violer, mais d'assassiner la Constitution.
À votre avis, Raoul, qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait?
Comme je viens de publier ce calendrier, et le calendrier qui ne sera pas respecté par et nous, le peuple aussi, nous n'allons pas respecter ça, ce qui devrait être fait par les institutions. Avant de publier ça, c'est mettre tous les acteurs principaux. Parce que ce n'est pas une question de la majorité de la minorité, c'est la question du peuple.
Mais quand même, vous êtes représenté au Parlement, c'est pour ça qu'il y a eu des élections au cours de l'année 2006, donc vous êtes représenté.
De laquelle manière, mais c'est notre fait organiser les élections, nous sommes pris là, nous voyons 2011. Et nous constatons que quand on dit par exemple, les 27 novembre, les scrutins présidentiels, à 9 jours du fin du mandat de l'actuel président, au lieu de 30 jours, ça c'est un assassinat de la Constitution.
Mmh. Merci Raoul, vous êtes tombé aussi, vous avez le même avis que Destinée de Kananga qui pense que c'est anticonstitutionnel. Merci pour votre participation, votre intervention à cette émission. Nous allons à l'est du pays où se trouve Olumba, il est à Goma, bonjour.
Bonjour, c'est Elumba.
S'il vous plaît, Elumba, vraiment. S'il vous plaît, Elumba, il y a vraiment, vraiment un peu de bruit à côté de vous. Peut-être que vous êtes en plein milieu, il y avait un bruit de vent. Est-ce que vous pouvez vous mettre à contre-vent? Et dites-nous, est-ce que vous êtes de l'avis de Destinée et de Raoul concernant l'anticonstitutionnalité ou bien vous avez autre chose à ajouter?
Non, moi j'ai un avis concret de tout ce que vous avez pu enregistrer jusqu'ici.
Mm-hmm.
Parce que Malomalo n'est pas le seul à violer la Constitution. Malomalo, ce n'est qu'un maillon parmi les torpilleurs de la Constitution. J'ai pu relever ici 87 articles de la Constitution qui sont quotidiennement violés par le gouvernant, en commençant par le sommet jusqu'au niveau de la collectivité.
Mais s'il vous plaît, Elumba, aujourd'hui nous parlons du calendrier. Donc restons-en à la publication du calendrier électoral et quelle est votre réaction face à cette publication?
Non, c'est sans objet le débat, parce qu'on ne peut pas discuter d'un tel problème dans un état de non-état. Nous sommes dans un état de non-état. La Constitution elle-même est violée systématiquement. On ne peut plus en parler. Nous devons avoir le courage de la filmer.
Et à votre avis, Elumba, qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce que vous pensez qui devait être fait?
Donc, parce que les concessions sous qui avaient été obtenues, il faut avoir cette Constitution est brisée. Nous faudrait qu'on arrive à reconstituer ce processus-là. Et on ne peut le reconstituer qu'en réunissant les esprits apaisés autour, je ne sais pas, d'un projet, pour qu'ensemble, on puisse définir les nouvelles règles du jeu.
Merci, Elumba, pour votre participation, votre contribution. Vous pensez à un consensus, que les gens puissent se mettre autour du table et essayer de discuter de ce calendrier électoral. Merci. Bonjour, Wabello.
Bonjour Marie-Chantal.
Vous êtes à Matadi, c'est vraiment à l'ouest hein, de notre pays. On vous écoute, quelle est votre réaction?
Bonjour encore les amis de la radio Okapi.
Mm-hmm.
Je voulais rappeler à M. Labbé qui est avec vous là-bas, de lire un peu l'exposé des motifs de la constitution que nous avons. Donc juste les trois premières phases. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une de ses causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette constitution a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays.
Oui, mais venons-en au calendrier.
Bon, alors, pour revenir à notre sujet, je dirais que M. l'abbé Malumalu n'a fait que chercher à vouloir provoquer ou créer une crise dans ce pays, encore une nouvelle crise. Parce que à entendre le président de l'Assemblée aujourd'hui, avec une question qui lui a été posée, et en disant par exemple que ce problème ne lui concernait pas et que c'est...
En tout cas, on n'arrive pas à comprendre. Donc, vous voulez savoir, est-ce que le calendrier doit passer au Parlement avant de s'exécuter? Et quelle est vraiment votre préoccupation?
Mais non, mais le calendrier ne pouvait pas être dicté par M. l'abbé Malumalu. Et donc, si le calendrier doit passer au Parlement, on sait ce qui va se passer au Parlement, parce que le Parlement ne nous fait plus confiance. Nous n'avons plus confiance à ce Parlement, surtout que c'est devenu une caisse de résonance. Et là-bas, et je sais que si le président de l'Assemblée aujourd'hui n'a pas pu mettre son point de vue, c'est parce qu'il sait qu'à l'Assemblée, finalement, il y aura ces jeux.
Pour chuter, hein, pour conclure à votre niveau, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre préoccupation, vraiment, parce que là, on n'arrive pas.
Non, mais les institutions de la République devaient réagir. C'est-à-dire, le président de la République devait réagir en tant que président pour respecter la Constitution, et le Parlement devait réagir. C'est-à-dire, le président de l'Assemblée devait dire non à cette manœuvre, et puis le gouvernement aussi devait réagir. C'est ça, les institutions mêmes. Les institutions qui sont dominées par une institution
d'appui
à la démocratie, ce n'est pas normal.
Merci Wabello, merci vraiment beaucoup pour votre participation, votre intervention. Nous prenons la dernière intervenante, c'est une femme hein, qui va intervenir à cette émission, parce que les femmes ont quand même un rôle assez pertinent à jouer dans ce processus électoral, surtout qu'elles composent plus de 50%, voire même 52%, c'est ce qu'on donne le chiffre des électeurs. Bonjour Madame Rose Mutombo.
Bonjour.
Vous êtes ici à Kinshasa et quelle est votre réaction face à cette publication?
Madame, c'est comme mes prédécesseurs, nous disons que on doit respecter les lois de ce pays. Étant donné qu'on vient de promulguer la loi sur la CENI, la moindre des choses à faire, c'est de donner, de voter, d'élire les personnes qui doivent animer cette institution-là le plus tôt possible.
Mm-hmm.
Et en cela, ils vont établir un calendrier qui ne sera pas anticonstitutionnel. En faisant ça, M. l'abbé Malumalu a violé la Constitution, madame.
Oui, et après,
il y a urgence.
Oui, madame. Madame, à votre avis, qui devrait alors publier ce calendrier?
C'est la chenille, madame. C'est la chenille. C'est la chenille. Puisque nous nous retrouvons avec deux lois qui sont en place, ce qui se chevauche, c'est pas normal. Mais je vois que le responsable de la future commission doit prendre les choses en main en tenant compte de ce que prévoit la Constitution. Mmh. On ne doit pas aller au-delà.
Merci beaucoup, Madame Rose Mutombo, pour votre intervention.
Parole aux auditeurs.
Comme je voulais dire l'introduction de cette émission, pour ceux peut-être qui viennent de nous prendre en cours, aujourd'hui nous parlons du processus électoral et nous avons invité dans ce studio le président de la commission électorale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Malou-Malou. Vous avez suivi les réactions de nos auditeurs, une question qui revient tout le temps, qui pense que la CEI n'est pas compétente, n'a pas le droit, n'est pas légitimement... elle ne peut pas publier un calendrier, surtout pour un nouveau cycle électoral. Quelle est votre réaction?
Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à nos auditeurs. Ça suscite beaucoup de passion, mais il faut dépassionner le débat. D'abord, je voudrais vous indiquer clairement qu'il faut qu'on lise la loi sur la CENI. Vous trouverez qu'à l'article 55, il est clairement établi que les membres de la commission électorale indépendante restent en fonction jusqu'à l'installation effective de la CENI.
Dans la continuité...
La fonction que nous avons sur laquelle... Connaissez-vous une autre fonction que nous avons, si ce n'est la préparation des élections? Nous n'en avons pas d'autre. Et maintenant, je voudrais vous dire que, premièrement, qu'on se tranquillise. La CEI a donné un calendrier qui engage la CEI jusqu'à ce que la CEI arrive. Le moment venu.
Donc, vous allez vous occuper
le moment venu.
Municipal.
Le moment venu. Non, ce n'est pas les municipales. Je vous ai dit que c'est déjà dépassé. Les municipales seront organisées par la CENI. Mais nous allons organiser la révision du fichier électoral. C'est quelque chose que nous avons commencé déjà il y a longtemps. C'est quelque chose que nous devons achever. Parce que tout le monde dit très bien, il faut respecter les délais. Mais tout le monde veut prendre le raccourci qui permettrait qu'il n'y ait pas d'élection l'année prochaine.
Alors, par là.
Mais écoutez, si on devait attendre la CENI pour commencer à préparer les élections l'année prochaine, je parle des élections, c'est-à-dire par exemple les processus budgétaires. Cela veut dire que cette année, la MONUSCO n'aurait pas de budget pour l'année prochaine. Son budget est voté en septembre prochain. Le gouvernement n'aurait pas de budget pour l'année prochaine. Les partenaires qui soutiennent les processus n'auraient pas de budget. Je vous ai dit que nous avons sorti le calendrier après concertation de tout cela. Et donc, vous devez savoir une chose, le calendrier, c'est un outil important de planification. La CENI ne va pas tomber comme ça, comme un cheveu dans une soupe, dans un monde sans planification. Maintenant, si les gens attendent les décisions de la CENI, elles arriveront. Mais ne commençons pas à parler à son nom.
Mais
le moment venu,
oui,
elle pourra dire si le calendrier qu'elle voit là-bas, elle peut le raccourcir. Mais je peux vous avertir que nous avons pris les premières dates possibles pour l'organisation des élections. C'est déjà un signal fort. Et que la CENI dont on rêve qu'elle raccourcira, je ne vois pas comment elle le fera parce que le temps joue contre nous et donc nous n'avons plus de temps à perdre. Maintenant, à ce qui concerne les délais constitutionnels, je voudrais d'abord dire que justement nous avons pris le courage d'indiquer à tout le monde que si on joue encore avec le temps, non simplement on aura dépassé de loin les délais constitutionnels, mais on sera dans une crise. Pour le moment, on parle d'une crise, mais en même temps, on ne lit pas l'ensemble de la Constitution. Parce qu'on lit l'article 73. Mais si vous lisez d'autres articles, comme l'article 70, on vous dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Si le délai est surpassé, est dépassé de 3 ou 4 mois. Ça reste encore gérable. Mais si maintenant, on joue avec le temps, en disant ça va la sénie, eh bien ce délai aura été d'un an, de 2 ans, je ne sais pas qui va gérer cela. Et donc, on a l'impression que les gens veulent planifier le vide juridique. Parce que ça les intéresse à faire des conciliabules et à voler encore au souverain primaire le pouvoir de pouvoir lui seul décider du sort des élus.
Nous ayons aussi une préoccupation parce qu'il y a des auditeurs qui pensent que cela n'a pas été concerté. Est-ce qu'il y a eu des concertations pour éviter toutes ces préoccupations qui sont en train d'être soulevées aujourd'hui?
Le calendrier. La concertation sur le calendrier, elle est interinstitutionnelle. Puisque vous regardez les différents engagements. Maintenant, quand le calendrier vient de sortir, plusieurs personnes s'expriment. C'est de leur droit. Nous sommes la démocratie. Mais attention, il y a séparation du pouvoir.
Mais quand vous parlez interinstitutionnel, donc la présidence, le Parlement.
Tout le monde.
Et vous étiez en réunion.
Le Sénat. Disons, par le représentant. Savez que
le bureau.
Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la République, commençons par lui, le premier ministre. Les différentes institutions, y compris ceux qui soutiennent au niveau international, je parle de.
Et les partis politiques hors des institutions.
De la Nations Unies. Non, le calendrier, c'est tout à fait autre chose. Là, nous parlons du calendrier. C'est-à-dire, on attend la faisabilité des élections. Maintenant, lorsque nous venons de sortir le calendrier, le constat des problèmes, à ce moment-là, les uns et les autres connaissent les procédures. J'entends qu'on dit qu'on a violé la Constitution. Mais qui doit interpréter la violation de la Constitution?
La Cour suprême, je sais qu'il faut fils en fait.
De la Cour constitutionnelle. Alors, je voudrais que ceux qui pensent qu'on a violé la Constitution saisissent la Cour suprême de justice et attendent sa réponse. C'est comme ça qu'une démocratie représentative se construit, avec la séparation des pouvoirs. Nous sommes convaincus que nous sommes devant un cas de force majeure, parce que le temps joue contre nous. D'autres estiment qu'il y a violation de la Constitution, c'est de leur droit. Mais qui doit trancher? C'est la Cour, c'est la justice.
Nous allons
le Parlement. Certains gens qui me disent on va saisir le Parlement. Non, c'est la justice qui doit trancher cette question.
Oui, nous allons écouter aussi d'autres auditeurs qui sont en ligne. Nous avons Obama Nakou, c'est un député national. Aussi, Emery Okunji, qui est également député national. Sans oublier Maître Ambroise Kamukuni, qui est constitutionnaliste, qui pourra aussi donner des éclaircissements face à ce sujet d'aujourd'hui.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Minakou.
Bonjour.
Vous êtes député national, vous faites partie de la majorité. On voudrait aussi savoir quelle est votre réaction en tant qu'individu et représentant, parce que vous avez été élu dans votre circonscription électorale, face à la publication de ce calendrier.
Bon, en tant qu'élu du peuple, ma première réaction est positive. Dans la mesure où, quelles que soient les contraintes techniques, financières et autres, il est bon d'organiser l'alternance dans un délai constitutionnel, dans un délai responsable. Et j'ai la conviction que ce qui nous a été présenté comme calendrier est responsable et pratique. Parce que, premièrement, il faut d'abord lire le calendrier, qui n'est qu'une prévision. Après l'avoir lu, et je me suis rendu compte que beaucoup ne l'ont pas lu, je posais des questions. Pourquoi on a proposé ces délais-là? Je me rends compte que sur le plan des contraintes techniques, budgétaires, notamment en fait, l'appui de nos partenaires, ce délai est responsable parce qu'une bonne partie d'élections rentre avant la fin du délai et une autre partie après. Pourquoi après? Tout simplement parce qu'il y a eu des contraintes techniques. La question que l'on doit se poser, pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est parce qu'il y a eu des cas de force majeure, c'est parce qu'il y a eu peut-être une négligence, et en tirer les conséquences au regard du droit et sur le plan politique. Ce soit un état de droit. C'est cela respecter les règles démocratiques.
Vous êtes à l'Assemblée, vous êtes à l'Assemblée nationale, au Parlement, c'est vous qui en fait qui votez sur le budget. Mais pourquoi on a eu l'impression au cours des derniers budgets qui ont été votés, on n'a pas vraiment senti qu'il y avait une place ou bien quelque chose prévu pour les élections qui devaient normalement se tenir.
Voilà une bonne question, mais c'est un autre débat. Pourquoi? Mais rappelez-vous qu'il y a eu beaucoup d'autres contraintes, notamment la guerre à l'Est, qui a suffisamment dérangé les prévisions budgétaires de la République et la problématique du point d'achèvement. C'est un tout autre débat. Il faut poser cette question-là et comprendre que nous avons connu beaucoup de contraintes qui ont gêné notamment le processus électoral. Mais je voudrais aussi ajouter un élément. Le projet ou le calendrier tel que publié n'est pas exclusif des compétences de la CENI. La CENI, qui verra le jour après son installation, aura la plénitude des compétences pour organiser les élections. Donc je crois que c'est une sorte de tempête dans un verre d'eau, parce que s'il y a des problèmes, la CENI va les corriger. S'il n'y a pas de problème, la CENI va profiter du temps gagné de cette planification afin que les élections soient organisées au possible.
Merci.
Enfin, excusez-moi, je relève une sorte de paradoxe. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont toujours crié depuis des années qu'il fallait organiser les élections rapidement. Aujourd'hui, que c'est organisé, on publie le calendrier, on commence à s'accrocher sur certaines fioritures juridiques. Je crois qu'il faut se départir du discours politicien. L'essentiel, c'est d'organiser les élections telles qu'elles ont été prévues. Et s'il y a des effets, ça sera corrigé.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Minako, pour votre intervention. Vous soutenez, en fait, ce calendrier. Vous pensez que c'est déjà un signal pour pouvoir commencer le prochain cycle électoral. Bonjour, Emery Okundji.
Bonjour, madame.
Vous êtes député national, mais cette fois-là de l'opposition. Vous avez écouté votre prédécesseur. Quel est votre avis?
En tant que véritable élu du peuple, madame, ma réaction est négative, d'autant plus que mon mandat est non impératif. Pourquoi il est négatif, madame? Nous avons la loi fondamentale, nous avons la constitution. Et j'ai suivi M. l'abbé Malouma et dans ses propos, madame, vous sentez l'amalgame, vous sentez la confusion. Tantôt, il vous parle de l'article 70. Il oublie que l'article 73 vient après l'article 70. Ce n'est pas pour rien qu'à l'article 73, on a prévu un délai de 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. C'est pour qu'il n'y ait pas ce vide-là, madame.
Oui, mais qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui pourrait être fait? Comment vous entrevoyez, en fait, la suite?
Écoutez, madame, il faut commencer par d'abord énumérer les irrégularités. La plus importante, c'est lorsque celui qui est supposé se conformer aux normes, aux règles et aux repères viole. Rappelez-vous que si on parle encore aujourd'hui de la CEI, c'est suite à un arrêt de la Cour suprême de justice, lequel arrêt demandait à son président, a demandé au président de la CEI, en tout cas, de boucler son mandat par l'organisation des élections locales, municipales et urbaines. Vous remarquerez qu'au lieu de boucler son mandat avec les élections municipales, locales et urbaines, M. l'abbé Malouma se permet de faire le travail de la CENI. Oui. Donc de faire le travail qui ne relève pas de
sa
compétence.
Mais à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait? Regardons l'avenir. On a une CEI qui n'a pas, selon vous, vous pensez, vous lisez les textes, vous estimez que la CEI n'a pas des prérogatives à pouvoir établir ce calendrier. À votre avis, est-ce qu'on devrait dissoudre la CEI attendre l'installation de la CENI avec, bien sûr, comme vous savez, tout le temps que ça prend. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Quelles sont vos propositions?
Monsieur l'abbé Maluma aurait dit tout simplement établir le calendrier pour les élections locales, municipales et urbaines, madame. En ce qui concerne, à partir du moment où la loi sur la CENI a été promulguée par le chef de l'État, eh bien, monsieur l'abbé Maluma expédie les affaires courantes. Et en expédiant les affaires courantes, il doit s'abstenir de prendre des décisions qui engagent la nation, des décisions profondes qui relèvent de la compétence de la CENI. Alors, nous disons, comme la loi est promulguée et les temps ne plus à notre faveur, il faudrait le plus rapidement possible convoquer même une session extraordinaire, madame, pour que nous puissions mettre désigner les membres, les 7 membres de la CENI, afin que la CENI puisse être à pied d'œuvre et établir un calendrier responsable, madame.
Merci. Merci beaucoup pour votre intervention à cette émission. Nous prenons le professeur Kamukuni, il est constitutionnaliste. Bonjour.
Bonjour madame.
Oui, plusieurs préoccupations anticonstitutionnelles, viol de la constitution, mais dites-nous un peu avant de d'en arriver là, quel est le processus en fait pour installer la CENI, parce que la loi a déjà été promulguée, combien de temps ça peut prendre?
Oui madame, de toutes les façons pour installer la CENI, le temps n'est pas à prendre, la balle est dans le camp des politiciens, dans le camp du parlement, et justement ceux qui parlent le plus pour le moment, c'est-à-dire les politiciens de la majorité présidentielle et parlementaire, et les politiciens de l'opposition, à qui justement la loi donne compétence pour pouvoir désigner les membres. C'est ça qui va se poser, mais le problème c'est que, avant d'aborder cette question, il faut d'abord que je vous fasse part de ma satisfaction totale, de trouver que pour une fois, tout le monde crie à haut sur le baudet parce que, justement, tout le monde se rend compte que la Constitution doit être protégée. Si ce cri est élevé par tous les débats qui se passent, tantôt dans la presse, tantôt dans tous les salons, était destiné à protéger effectivement la Constitution, ça serait absolument un record. Mais malheureusement, on est en train d'assister à un débat au fait creux. Creux pourquoi? Parce que autour de tout ce débat, il se pose deux questions principales. La première question, la CI ou les membres de la CI ont-ils aujourd'hui compétence pour pouvoir publier un calendrier électoral? Il faudra répondre à cette question d'abord. Ensuite, la deuxième question, la deuxième préoccupation de tout le monde, y compris vos auditeurs, c'est de savoir si le calendrier qui a été publié est inconstitutionnel ou non. Je commencerai donc par le commencement. C'est-à-dire que lorsque on parle des compétences des membres actuels de la CI, on semble oublier que la CENI est aujourd'hui régie par une loi. Cette loi a été votée au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle a été promulguée par le chef de l'État. Et cette loi, comme les autres lois, y compris la Constitution, est dotée de ce qu'on appelle les dispositions transitoires. Les dispositions dont on doit tenir compte lorsque on est dans une période qui ne permet pas à un organe créé de fonctionner normalement. Pour envoyer la Constitution, vous vous rappelez que la Constitution du 18 février 2006 a supprimé la Cour suprême de justice. Mais, dans les dispositions transitoires, cette Constitution a remis compétence à la Cour suprême de justice qui doit devoir continuer d'agir à la place de la Cour constitutionnelle.
Oui, s'il vous plaît, monsieur le professeur, on voudrait aussi quand même avoir d'autres précisions, des préoccupations. Est-ce que l'installation du bureau de la CENI doit se faire en pleine session parlementaire ou bien ça peut se faire hors session? Est-ce que c'est au niveau des partis politiques où on doit nommer ces personnes, et ça doit se faire nécessairement dans une session parlementaire.
Non, à mon sens, les parlementaires sont de l'opposition que de la majorité, doivent déjà se mettre à l'œuvre pour pouvoir se constater rapidement, de telle sorte qu'à la première occasion, ils puissent présenter les membres. Or, madame, nous connaissons ce qui se passe dans ce pays avec les politiciens, et les débats seront sûrement longs. Pour preuve, depuis, nous sommes à la fin du mandat de la première législature, le porte-parole de l'opposition n'a jamais été désigné. On n'a même pas commencé les débats. Les députés du président de la CI qui vient d'affirmer que le calendrier a la chance d'être respecté. Moi, je crains justement le calendrier qui ne soit pas respecté.
Il y aura un frein au niveau des politiques.
Justement. Mmh. Et moi, je crains justement et je soupçonne que les politiciens sont en train d'établir sur ce frein-là pour que les élections n'aient pas lieu. Parce que c'est ça le grand problème pour le moment.
En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Nous allons prendre le dernier de cette série. Il s'agit de Serge Amoury. Il est député national, je crois. C'est ce que me dit la réalisation. Bonjour, monsieur Serge Amoury.
Bonjour, madame.
Vous êtes député national, c'est ça?
Député national, c'est ça.
Oui, on vous écoute. Vous êtes indépendant. On vous écoute. Quelle est votre réaction face à la publication de ce calendrier?
Oui, merci beaucoup, madame, pour votre question. Vous savez, d'abord, j'ai suivi tous les intervenants, mais quand même, comment critiquer d'abord le professeur qui vient de parler tout à l'heure, quand il donne son point de vue, et il parle même, il est allé même très loin, il a parlé même de la Cour suprême de justice. Ces jours, on dit que la Cour suprême de justice ne pourra pas peut-être prendre aussi des décisions parce qu'il y a une cour, constitutionnelle. Mm-hmm. Vous savez, nous sommes dans un pays, nous venons de loin, j'ai demandé sur la voie passée que les uns des autres mettent un peu de vin dans l'air, mettent un peu de l'eau dans l'air vin pour que nous arrivions à faire quelque chose pour cette nation, pour cette population.
Oui,
le calendrier a été publié par M. Adi Malou, juste après le portrait, jusqu'aujourd'hui, M. Adi Malou. À ce que je sache, il est le président de la CII, et ce bureau est composé de tous les composants, c'est-à-dire et l'opposition et la majorité. Parce que vous allez vous souvenir que le bureau de M. Malouma de la CII est composé de l'équipe antistate jusqu'à ce jour, et ça n'a jamais encore été discuté parce qu'ils ont attendu la loi de la CII.
On peut y aller directement à votre réaction. Qu'est-ce que vous pensez de cette publication?
Moi, je crois, je demande aux autres membres, des parlementaires, mais c'est malheureusement pour moi, je crois qu'il a commis une proposition. Et il a fait, mais c'est malheureusement, il a pris une proposition. Et quant à nous, politiques, nous devons attendre que pour les 15, quand nous recommençons en tant que parlementaires, nos plénières, nous allons en discuter en tant que responsables et voir pourquoi ce calendrier a été donné ainsi, au moment où la constitution est claire là-dessus. Mm-hmm. Du coup, on va avoir le point de sortie, au lieu de s'agiter, on s'est agité pour les 26 provinces, et aujourd'hui on commence à s'agiter pour le calendrier électoral. Je ne sais pas est-ce que nous voulons faire quoi? Nous voulons tromper la population? Non, nous devons aller aux élections, ça c'est un fait normal. La population va bien nous juger par rapport à ce que nous avons fait comme mandat. Est-ce que nous avons parlé à leur nom? Est-ce que nous avons servi à leur nom? Est-ce que nous avons représenté cette population? Je crois que c'est ça le débat. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on a fait son travail. Quant à nous, politiques, nous devons aussi faire le nôtre, nous avons à discuter, mais par rapport au calendrier qui a été donné. Mais il ne faut pas chercher les boucs émissaires pour dire, voilà, ici, voilà, c'est l'or. Il y a la combinaison des matins qu'on n'a pas encore installé la CENI. Je crois, normalement, on doit continuer son travail jusqu'à ce que l'article 55 est clair, madame. Je demande aux intervenants de lire l'article 55.
Mmh. Merci beaucoup, monsieur Serge Amoury, pour votre intervention. Nous poursuivons cette émission. Nous avons une seconde partie qui va faire 15 minutes, qui juste après 11 heures, notre bulletin d'information. Mais entre-temps, on se soucie.
Parole aux auditeurs.
Notre invité, c'est le président de la commission électorale indépendante. Vous avez suivi les réactions, cette fois-là c'était un peu politique, là, parce qu'on avait des hommes politiques, des parlementaires qui se sont prononcés, c'est individuel, c'est pas au nom de leur parti politique ni de leur regroupement politique. Quelle est votre réaction?
Je veux d'abord dire que nous devons être responsables. Quand nous parlons du droit, nous ne pouvons pas faire des interprétations sans savoir qu'il y a une science juridique. Dans le domaine du droit, lorsque une institution qui sort doit assurer les affaires courantes, est-ce qu'il y a un article qui doit le spécifier? S'il y a une disposition transitoire, ce que le législateur a su qu'entre la CEI et la CEDI, il y aura une période transitoire. Le calendrier que vous avez vu gère cette période transitoire. Et je voulais dire qu'il ne faut pas qu'on commence à se distraire. La dernière action que nous allons poser, c'est la révision du fichier électoral. Nous voulons que les gens se mobilisent autour de la révision du fichier électoral, parce qu'après cela, ils se réveilleront un matin pour constater qu'ils n'ont pas de nouvelles cartes d'électeurs et ils ne pourront être ni électeurs, ni éligibles, ni candidats.
Est-ce que c'est le nombre d'électeurs qui en fait donne les sièges?
Voilà, et puis la répartition des sièges sera biaisée. Donc, attention, retenez une chose. Il y a le débat. Il est démocratique. Chacun son point de vue. Il y a le mécanisme de prise de décision. Nous savons qui décide. Il ne faut pas qu'on trompe la population.
Alors, qui décide?
Mais aujourd'hui, celui qui décide en matière électorale, c'est la CEI. En matière électorale. Dans les autres domaines de compétences, vous avez d'autres institutions. Jusqu'à l'avènement de la CEI. Je voudrais d'abord dire en passant qu'il n'y a que la CEI qui croyait à l'avènement de la CEI. Puisque la CEI a donné sa contribution à la loi sur la CEI, officiellement au gouvernement qui préparait le projet de loi, le 16 décembre 2006. Nous sommes à 2006 et on agite le débat sur la CEI à 2010. Vous ne voyez pas qu'on a perdu du temps. La CEI a insisté à chaque session parlementaire. La loi sur la CENI a été inscrite à l'ordre du jour. Et à la fin de chaque session parlementaire, elle n'était pas. Elle n'était pas étudiée. Calculer le nombre de sessions depuis 2006. Alors je crois qu'il faut quand même un peu de responsabilité. La CEI sait que c'est la CENI qui va organiser les élections. Mais nous ne sommes pas dans un monde où on improvise les actions, je vous ai dit. Le minimum pour la CEI, c'est de planifier jusqu'à l'avènement de la CEI. Et je voudrais quand même insister là-dessus, madame. J'aime bien le débat. On peut en débattre à longueur de journée. Mais je voudrais que la population qui m'écoute sache que cette année, il y a la révision du fichier électoral. Et que ça devrait être l'action qui devrait mobiliser le plus la population au lieu de commencer à parler de la CENI. Quand la CENI agira, elle décidera. Alors, pourquoi commencer à parler au nom de la CENI qui n'existe pas encore? Et donc, c'est à
cause. Elle n'est pas encore installée, mais qui existe.
Non, elle n'existe pas.
Mais elle n'est pas encore installée.
Elle n'existe pas. Je parle des membres, en tant que membre. Mm-hmm. C'est le corps qui doit. La loi sur la CENI existe.
Mais
la CENI n'est pas encore là. Bon, je terminerai par rapidement une considération. Moi, je pense que nous devons quand même chaque fois regarder aussi notre statut et lui donner des informations qui soient justes. Et les informations qui sont justes, c'est que, eh bien, c'est maintenant que se préparent les moyens qu'aura la CENI l'année prochaine. Alors, on ne peut pas dire, ne préparons pas les moyens pour la CENI
Et puis l'année prochaine, on va prendre comme excuse, quand la CENI arrive, il n'y a pas de moyens. La CENI a pris ses responsabilités et elle rendra le tablier à la CENI en ayant convaincu tout le monde que la CENI qui arrive doit avoir un budget pour 2011 et doit avoir les moyens nécessaires pour conduire les scrutins de manière satisfaisante.
Oui, on revient alors à ce budget, parce que vous avez dit une déclaration que vous avez faite ici sur Radio Capi au cours d'une interview que vous avez donnée. Vous avez dit qu'il faudrait environ 712 millions de dollars pour la réalisation de ce processus électoral et le gouvernement, cette fois-ci, va contribuer à 60%. Dites-nous, est-ce que vous pensez que cela pourra tenir? Parce que souvent, le gouvernement a pu le dire, nous n'avons pas les moyens. Pourquoi donner autant de pourcentage au gouvernement qui souvent se plaint de manque de moyens?
Faisons un recul historique. Nous avons commencé notre travail en 2003. 2003, il n'y avait pas de moyens. 2005, il n'y en avait pas. 2006, parce que la période électorale, il y a eu les moyens. Et les élections ont eu lieu. Nous prenons, malheureusement, je condamne ça.
Les moyens, mais il y avait un grand apport extérieur.
Oui, mais les moyens sont...
Là, les moyens, 60% du gouvernement.
Même les 10% que le gouvernement a donné aux élections passées, de 2003 à 2005, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, 2016, il n'y a pas eu de moyens. 2008, 2009, je vous informe que dernier semestre 2010, les moyens sont en train d'être débloqués. Pourquoi? Parce que nous avons eu le courage d'interpeller les institutions à temps et de leur donner aussi le chronogramme opérationnel. Je vous informe que le gouvernement dont on parle, à terme de moyens, vient d'acheter 9 500 kits d'enregistrement pour 33 millions de dollars. Et cela, alors qu'il n'a pas trouvé les moyens avant, il vient de les trouver à 2 mois.
Parce que notre préoccupation,
parce que justement, nous avons fait notre travail qu'on doit attendre de nous de dire au gouvernement la vérité et de lui dire c'est maintenant, donc c'est maintenant ou jamais.
Parce que la préoccupation,
s'il vous plaît, je vous informe que d'ici jusqu'à décembre, le gouvernement aura mobilisé 45 millions de dollars.
Parce que ça, ce sont des projets, hein, mais
non, ce n'est pas des projets.
Comment on peut faire confiance à des moyens extérieurs lorsque, au niveau du gouvernement, on n'est pas sûr qu'on aura ces moyens? C'est ça un peu la préoccupation.
Parce que c'est la situation d'avant. Et nous l'avons rectifiée. Parce que je vous dis que nous venons de terminer la concertation entre le gouvernement et la communauté internationale. Personne n'accepte plus que le gouvernement assiste à spectateur à l'organisation des élections. Quand nous sortions de la guerre, avec la situation qu'on appelle post-conflit, c'était acceptable. Maintenant, c'est inacceptable. Et donc, le gouvernement est devant ses responsabilités, mais je vous dis qu'il il s'est engagé pour cela, et il a commencé à le faire, au moins ce qui concerne l'achat d'équipes. Maintenant, on lui a donné un plan de trésorerie. D'ici décembre, il sait chaque mois qu'est-ce qu'il doit débloquer. Rien que ce mois ici, en dehors de qui tu dois débloquer 10 millions de dollars, à la fin de ce mois, il aura trouvé, et ça c'est la semaine prochaine, 59 camions pour la logistique. Donc, le calendrier que vous voyez est assorti d'exigences vis-à-vis du gouvernement, les exigences les plus élevées, parce que nous avons pris notre courage d'interpeller chaque institution. J'espère que les parlementaires aussi, à la session, puisqu'ils évoquent chaque fois la session, prendront aussi leurs responsabilités. Quant au gouvernement, c'est chaque jour que je suis cette question pour que le gouvernement débloque les arriérés de salaire, les paye les dettes, même en même temps, paye l'ensemble de l'opération. Et je vous informe que depuis hier, les cargos ont commencé à envoyer le matériel en province. Hier, c'était un cargo à Lubumbashi, le surlendemain. Donc, chez nous, le travail a réellement commencé de la révision du fichier électoral. J'aimerais bien que tout en débattant démocratiquement, les gens ne puissent pas oublier que l'opération de cette année, c'est l'opération de révision du fichier électoral. Est-ce qu'on va encore me dire que ce n'est pas la compétence de la CEI? Mais quand on me dit que la CEI devait préparer les élections urbaines et municipales locales, tout le monde doit se rappeler que ça commence par la révision du fichier électoral. Nous sommes en train d'accomplir une tâche. On nous a bloqué pour qu'on la fasse bien. Mais nous sommes en train maintenant de la réaliser et ça sera la dernière tâche que nous allons accomplir, la révision du fichier électoral. Si ceux qui veulent nous défier en disant que c'est la CENI qui doit le faire, qu'ils installent la CENI. Les jours qu'ils l'installent, vous n'entendrez plus parler de la CENI, mais tant qu'ils ne l'ont pas installée, et ce n'est pas de notre faute, je viens de vous le prouver. Si ça dépendait de nous, en 2007, on devait déjà avoir la CENI. Il n'y aurait pas de CEI.
Merci, Monsieur le Président de la CEI. Nous restez avec nous parce que nous allons suivre ensemble le bulletin d'information qui va intervenir dans presque 1 minute 30 secondes. Et nous allons poursuivre cette émission parce que après ce bulletin d'information, nous aurons une seconde tranche qui va durer à peu près 13 minutes. Alors pour tous les auditeurs qui veulent participer à cette émission, donner leur impression, leur réaction, leur avis concernant l'application de ce calendrier électoral, cela fait presque une semaine que cela a été publié, eh bien, il suffit qu'il compose le 081-890-6315 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Et dès que vous écrivez directement, nous allons soit vous appeler si vous donnez votre numéro de téléphone dans votre mail, ou carrément lire votre avis, ce que vous pensez en fait de ce calendrier électoral. Et je rappelle que nous avons invité pour vous le président de la commission électorale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Malou, qui est là pour pouvoir discuter, échanger avec vous concernant la publication de ce calendrier électoral. Bientôt, vous allez suivre notre bulletin d'information. On va vous donner des nouvelles en brève. Merci beaucoup et nous poursuivons cette émission. Nous poursuivons parole aux auditeurs aujourd'hui, cette émission consacrée au processus électoral avec la publication du calendrier électoral. Et nous avons invité pour vous dans cette émission l'abbé Apollinaire Malou, qui est le président de la commission électorale indépendante. Et la question pour continuer cette émission, la question qui a lancé cette émission, c'était quelle est votre réaction face à cette publication. Nous avons Franck qui est au bout du fil, il nous appelle de l'Allemagne. Bonjour Franck.
Bonjour Madame Marie-Chantal, bonjour aussi à la Béa Polinaire et à tous les invités de Radio Capi.
Oui, on voudrait savoir quelle est votre réaction par rapport à cette publication.
Bon, merci beaucoup pour la question aussi, pour l'intérêt du choix de ce thème. Je crois que la Béa Polinaire s'est clairement expliqué, il a essayé de dire les différentes raisons qui ont fait que ce calendrier puisse être publié maintenant. Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'aspects qui doivent être évoqués. Il y a l'aspect de la prévision pour les élections, il y a l'aspect budgétaire, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect juridique. Mais je n'aimerais pas entrer en détail au niveau de l'aspect juridique. Nous savons que la loi sur la commission électorale nationale indépendante a été votée, mais du moment où le bureau de cette institution à l'appui de la démocratie n'est pas encore installé, c'est la CEI qui doit en principe organiser et gérer des affaires, expédier des affaires courantes. Mais il y a aussi, comme on se rend compte, il y a aussi une pression temporelle, il y a aussi une pression financière, quoi. Je crois que s'il y a des irrégularités, s'il y a des incohérences au niveau du point de vue juridique, c'est à la Cour suprême de justice de trancher si le président ou la CEI en tant qu'institution a droit ou pas de publier un tel calendrier. Ça, c'est un. Et deux, c'est quand même regrettable de constater que même au niveau des représentants du Parlement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certains points. Je suis ici, il y en a qui trouvent que bon, c'est possible du point de vue juridique, il y en a qui savent qu'est-ce critiquer. Mais ce que nous avons constaté chez nous, nous qui vivons à l'étranger, on peut tout faire. Nous n'avons jamais été d'accord sur certains points. Quand il y a un calendrier, pendant que le calendrier n'était pas encore publié, ont crié à la fraude, ont crié à ceci. Maintenant, quel calendrier provisoire, s'il est encore provisoire, vient d'être publié, on crie à la violation de la Constitution. Donc, je crois qu'il faut d'abord demander aux uns et aux autres de ne pas avoir peur, car à comprendre leur réaction, c'est comme s'ils ont seulement peur d'affronter ces échéances électorales. Alors, je crois qu'il faut aussi éviter de tomber dans une forme de radicalisme idéologique sans fondement, juste en vue de légitimer certaines situations au détriment de ceux de la majorité de la population. Donc, il y a quand même la Cour suprême de justice qui devra trancher si ce calendrier est juridiquement cohérent ou pas, qu'on arrête maintenant de créer encore des polémiques, de prévenir déjà la fin du monde, de dire ceci, c'est nous avons des intellectuels là-bas, mais c'est comme si pour se mettre d'accord pour certaines histoires vraiment simples, nous, Congolais et nos dirigeants, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord.
Merci beaucoup, Franck. Merci, Franck, pour votre intervention. Nous avons compris. Je pensais qu'il faudrait plus se baser sur l'essentiel. C'est un peu ça, le gros de votre message, ce que vous, vous estimez être essentiel. Nous écoutons, nous avons aussi écouté l'avis de Franck plutôt Diongo. Franck Diongo, il est lié à Kinshasa. Bonjour, Franck.
Merci beaucoup, madame.
On vous écoute. Quelle est votre réaction?
Vous savez que je suis président du mouvement Le Monde des Progressistes, un parti de l'opposition radicale.
Mais aujourd'hui, nous vous prenons en tant qu'individu. Vous ne parlez pas au nom de votre parti politique, parole aux auditeurs, vraiment c'est individuel. Si que vous, en tant que vous, Franck, si vous serez futur candidat ou électeur, que pensez-vous de ce calendrier?
Ce que nous pensons, c'est un calendrier. C'est un acte de provocation. Ce calendrier est illégal. C'est une usurpation du pouvoir, c'est un mépris aux Congolais et une insulte à la démocratie.
Oui. Et quelles sont vos propositions? Qu'est-ce qui devrait être fait selon vous?
La correction introduite, c'est un calendrier ni le ni le fait. Il faut un calendrier issu des compromis, un calendrier issu des consensus avec l'acceptation de tout le monde. Toutes les raisons invoquées par l'abbé Malumalu ne sont pas convaincants sur le plan politique et juridique.
Donc vous souhaitez qu'il y ait un consensus, vous pensez que ce calendrier ne peut pas passer comme ça, il faudrait plus de concertation. Nous avons J. Luto Nadio, il nous écrit à partir des États-Unis, l'Amérique, il dit ceci, nous qui sommes de la diaspora, avec tout ce que nous faisons pour notre pays et nos familles restées en RDC, pourquoi on ne nous reconnaît pas notre droit de vote pour ou contre les prochaines élections. Surtout, on sait que le mandat de 2011 sera, il y aura un second tour. Donc, ils souhaitent en fait que la diaspora soit prise aussi en compte dans les prochaines élections. Il y a Imurani Sapros de Kindu Maniema. Il écrit ceci, la population n'a pas besoin qu'on prolonge même d'un jour le mandat de qui que ce soit, le président lui-même ne le veut pas. Il faudrait que la CEI, dans les cas d'espèce, respecte la Constitution et les lois de notre pays. Le calendrier publié a violé amplement la Constitution, que l'alliance pour la majorité présidentielle ne soit pas l'alliance pour le malheur du peuple, car elle est indéfendable. Attendons la session de septembre au niveau du Parlement pour voir qui soutient le peuple. Est-ce l'opposition ou la majorité? Il y a aussi Godefroy Bint, il dit les erreurs du passé servent à améliorer l'avenir, dit-on. Pourquoi l'abbé Malumalu n'a pas tiré le son de cela? Nous avons tous vu ce qui s'est passé à l'élection passée et jusqu'aujourd'hui il y a encore des inachevés et ça demande vraiment que les élections en RDC soient bien faites. Et aussi là, juste ceci, on ne pouvait pas se heurter à la publication du calendrier et chercher d'abord à connaître le nombre exact de la population. Donc il soutient un recensement dans, au cours de ce processus électoral. Et il y a aussi Charlie de Kisangani, il écrit ceci, la CEI a bien fait d'alerter l'opinion sur l'organisation prochaine des élections. Pourquoi n'a-t-elle pas commencé le processus par les élections locales qui n'ont pas eu lieu lors des échéances passées? Voilà son avis de Charlie qui se trouve pour l'instant à Kisangani. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, encore une fois une autre série d'auditeurs, votre réaction, mais en même temps, votre conclusion à cette émission.
J'ai l'impression d'abord de la diaspora, parce que la question est toujours posée à la commission électorale indépendante, pourquoi ne pas organiser le vote de nos compatriotes à l'étranger. Ce qui nous répondit, c'est une question de loi. On nous annonce une réforme électorale, les députés disent toujours, nous verrons à la session parlementaire. Je demande à la diaspora de les interpeller et d'inclure le vote de combattants étrangers dans la loi. Si c'est indiqué dans la loi, alors la CEDI en tiendra compte. Et donc, il y a, chacun a ses responsabilités. La CEDI va mettre en application la loi électorale. C'est cette loi qui devrait indiquer oui ou non, qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, on parle de mépris de la démocratie, mais le mépris de la démocratie, c'est aussi le mépris à l'égard des institutions. Vous avez une institution, elle est encore en train de travailler. On peut bien vouloir l'enterrer très tôt, mais dans le vide. Et comme je vous ai dit que ce soit les élections urbaines municipales locales, la CEI a fait son travail. Ce n'est pas elle qui peut parler d'élections locales, mais les autres institutions, qu'est-ce qu'elles ont fait pour qu'il y ait élections urbaines, municipales et locales, y compris ceux qui parlent à longueur de journée. On parle de la CENI. Je vous ai montré que nous attendons la CENI en 2007. Donc ça ne parle pas de nous. C'est d'ailleurs curieux. Et on doit poser la question. Est-ce que le débat sur la CENI devait avoir lieu en 2010? C'est malheureux. Et donc, qu'on arrête de vouloir agiter des débats qu'on devait agiter il y a longtemps, tout simplement parce qu'on aimerait essayer de planifier les aides juridiques l'année prochaine. Nous avions dit déjà à ce temps, l'année passée, nous avons répété le 19 mai, que les élus de 2006 et 2007 doivent rendre le tablier. Pour un besoin de leur trouver des excuses, à vouloir prolonger quoi que ce soit. Ici, nous avons publié ce calendrier avec le dépassement léger qu'on voit. Ça aurait pu être grave si nous n'avions pas été prévenants en mobilisant nous-mêmes les ressources. Parce que si on n'avait pas mobilisé les ressources, on parlerait de quoi aujourd'hui? On ne parlait même pas des élections. C'est parce qu'aujourd'hui, on parle de la faisabilité des élections. On montre quelles auront lieu. Que le débat s'anime. Voilà ma conclusion. Donc, soyons sereins. Nous faisons notre travail. Et notre travail, c'est de vous interpeller pour dire cette année, il y aura la révision du fichier électoral. Mobilisons-nous pour cette révision du fichier électoral pour que nous ayons le maximum d'électeurs et que nous ayons aussi l'année prochaine le maximum de candidats et que la compétition électorale se poursuive normalement et nous souhaiterons bonne chance à la CENI qui devra bientôt organiser
cela. Merci beaucoup monsieur Amadou Malou pour votre participation, d'avoir accepté notre invitation. Nous disons aussi merci aux auditeurs qui ont participé avec ils étaient très actifs au cours de cette émission, ils ont donné leur avis. Cette émission a été consacrée au processus électoral, notamment la publication du calendrier électoral, et nous prenons rendez-vous pour demain à notre numéro de parole aux auditeurs.
Allô? Oui. Il ne répond pas?
Comme je l'ai dit tantôt, demain c'est un nouveau numéro de parole aux auditeurs et nous prenons rendez-vous avec vous. Demain, ce sera le 19 août. Le monde célèbre la journée de l'aide humanitaire. Une journée pour informer le public du travail que fait les humanitaires et honorer la mémoire de ceux qui ont été tués ou blessés pendant leur travail. La question principale pour notre émission de demain, comment appréciez-vous l'action des humanitaires dans votre milieu ? Bien réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net et surtout nous disons merci à Kiki Soutou, Nicole Ngaka, Sylvain Matungu. Lui, il était à la mise en onde, Kiki à la réalisation et Nicole aussi. Et nous, comme je l'ai dit, à demain, nous prenons un autre rendez-vous.